Bonjour, Raymond Richard au micro pour l'émission Terre solidaire avec Samuel Pommeret, chargé de mission Grand Lac Éthiopie. Dans notre émission de la semaine dernière, nous avons évoqué justement comment des femmes faisaient une agriculture, mais pas simplement pour leur petit potager pour manger, mais aussi, bon, première chose, on mange et on fait manger nos enfants et nos familles. Mais deuxième chose, une dimension aussi économique, on pourrait dire, de cette agroécologie. Alors je voudrais, Monsieur Pommeret, que vous nous parliez de ces choix que le CCFD soutient, mais qu'il fait aussi avec d'autres acteurs, et comment, justement, l'agroécologie n'est plus que la petite agriculture vivrière, mais vraiment quelque chose qui est intensif, efficace, et qui va peut-être nous ouvrir sur des modèles de développement nouveaux.
Oui, tout à fait. Un des enjeux de l'action du CCFD et de ses partenaires aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le changement d'échelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de la diffusion de pratiques à un niveau extrêmement local, des pratiques qui marchent, qui sont efficaces, qui sont testées et approuvées, je dirais, à une échelle supérieure, que ça soit l'échelle d'un territoire, l'échelle d'une filière ou l'échelle d'une politique publique, quand il s'agit aussi de changer les politiques publiques pour qu'elles prennent en compte cette dimension écologique. Et dans cela, on est soutenu par l'Agence française de développement, qui nous soutient dans le cadre d'un projet pour une transition vers une agroécologie paysanne, qui concerne la zone Grand Lac, mais aussi la zone Sahel, des pays d'Amérique latine et d'Asie. Et dans la zone Grand Lac, concrètement, c'est 5 partenaires au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo qui vont, chacun sous un angle différent, proposer une approche ou de la gestion concertée des ressources naturelles. Là, je pense au Burundi où il y a plusieurs communautés autour d'un lac qui était fortement dégradé, qui se sont organisées pour protéger les ressources de ce lac et redévelopper un tissu agricole basé sur des techniques agroécologiques. On parle là d'une échelle déjà très très importante hein, territorialement. On parle de centaines de kilomètres carrés. Je pense aussi à d'autres partenaires au Rwanda qui travaillent à l'introduction d'indicateurs agroécologiques dans les politiques publiques qui sont très tournées vers les cultures conventionnelles, enfin vers le modèle conventionnel. Et ça a des impacts hein, concrètement sur la pollution à cause de l'utilisation massive des engrais. Bah, ces partenaires proposent d'introduire des techniques qui vont permettre de réduire la dépendance aux intrants, de diversifier les cultures et de favoriser la sécurité alimentaire des paysans. On a aussi des partenaires au Burundi qui font de l'articulation entre gestion foncière et agroécologie. L'idée, c'est résorber les crises foncières au niveau local et empêcher les conflits, mais aussi sur des parcelles, encore une fois, qui sont petites, de développer une intensification des productions. Et puis, il y a aussi des partenaires qui, eux, à niveau de vraiment d'un réseau de coopératives à l'échelle nationale au Burundi, travaille à la promotion de produits agroécologiques, notamment à destination des urbains. Donc là, on n'est pas dans des micro-projets, on est dans des projets qui sont massifs. Et c'est toute la pertinence, c'est de les suivre et de les évaluer pour comprendre comment diffuser, systématiser, etc.
C'est bien reçu par les partenaires de ces pays, ou bien certains restent sur l'expectative en disant « on va voir ». Comment c'est reçu ? Parce que finalement, ça veut dire changer la politique foncière ou l'appropriation des terres. Enfin, ça doit...
Tout à fait. Tout à fait, ça pose des questions. Alors, quand on est arrivé il y a un peu plus de 5 ans vers nos partenaires en leur disant qu'on était en train de mener une réflexion sur l'agroécologie, c'est sûr qu'ils nous ont regardé en nous disant où veut nous emmener le CCFD. Eux, déjà, ils sont convaincus. Très rapidement, ils ont dit « Ok, on voit concrètement vers où on peut aller et ça nous donne de nouvelles perspectives ». Les pouvoirs publics, évidemment, peuvent être un peu défiants. D'abord, ils peuvent être défiants quand ils voient des femmes paysannes débarquer et réclamer, revendiquer des droits, revendiquer une liberté d'action et revendiquer une autre manière de faire. C'est sûr que ça peut...
Et participer à l'héritage, peut-être aussi.
Alors voilà, c'est qu'elles remettent aussi en cause, des problématiques sociales. C'est nous, on veut avoir accès à la terre et on veut avoir accès à nos droits. Ça pose une question. Quand des ministres ou des responsables d'administration des secteurs agricoles se voient confrontés à des paysans qui disent « la politique que vous mettez en place ne nous permet pas de manger à notre faim et on veut faire autrement », évidemment, ça crée des rapports de force, mais ces rapports de force peuvent être positifs. Et là, c'est aussi notre travail d'accompagnement. Et nous, on n'est pas du tout dans une logique de cloisonner les choses, mais au contraire d'ouvrir. Et on va discuter aussi avec les tenants d'un modèle plus conventionnel. Et c'est de ces échanges, encore une fois, que l'on nourrit notre action. On n'a pas une approche dogmatique, on repart vraiment des connaissances et des pratiques locales pour proposer des solutions, mais on ne prétend pas trouver et appliquer partout les mêmes solutions.
Donc, diversité de l'approche agroécologique paysanne, mais en même temps, une certaine efficacité, parce que finalement, c'est ça qu'on souhaite. Souvent, on disait, l'agriculture vivrière, oui, mais ça va pour se nourrir, et puis pour le reste, c'est pas possible. Alors que là, en fait, l'agriculture vivrière devient vraiment le modèle de référence. On change de paradigme là.
On change de paradigme et en même temps, on rejoint en ce sens les analyses qui pouvaient être faites par le rapporteur pour le droit à l'alimentation des Nations Unies depuis une dizaine d'années. On sait que l'agriculture vivrière, c'est une clé essentielle si on prétend combattre la faim dans le monde, que l'agriculture familiale est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, parce que c'est la réalité de l'agriculture aujourd'hui, c'est une agriculture pratiquée par des familles, par des paysans. Donc ça, c'est la première chose. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est non seulement de travailler sur la parcelle, la production, mais c'est aussi en amont et en aval. Si on veut développer de l'emploi pour les jeunes de la région des Grands Lacs, il faut voir comment on leur permet de s'insérer socialement et économiquement. Donc c'est peut-être leur permettre d'accéder plus facilement à la terre, mais c'est aussi leur permettre de développer des niches d'emploi. Ça peut être faire de la conduite d'élevage, ça peut être se retrouver monter des pépinières pour pouvoir favoriser la reforestation et la lutte anti-érosive où on a besoin de plantes fixatrices. Ça peut être fabrication d'outillage, ça peut être des activités dans les unités de transformation. En fait, c'est redévelopper tout un écosystème économique et social autour des exploitations familiales. Et ça, c'est vraiment un défi absolument crucial et puis passionnant à relever, quoi.
Donc, forte intensité de main-d'œuvre, je sens là-dedans.
Forte intensité
de main-d'œuvre.
Mais
est-ce que les Nations Unies, vous évoquez ça, les Nations Unies sont acquise maintenant à ce modèle?
Les Nations Unies ont toujours été, je pense à la FAO, je pense au rapporteur droit à l'alimentation, ont toujours été, je dirais, en défense de l'agriculture familiale et le problème, je dirais, ne vient pas de là. La problématique, elle vient plus du côté des politiques publiques des États qui manquent franchement de cohérence. C'est-à-dire que d'un côté, on peut soutenir des initiatives de promotion de l'agroécologie parce qu'on a conscience de l'impact du changement climatique, parce qu'on a conscience de la faillite du modèle conventionnel.
Oui.
Et puis de l'autre côté, on va financer de manière plus ou moins transparente, des acteurs majeurs de l'agro-industrie qui pratiquent des accaparements de terres, qui favorisent le développement des monocultures.
Mais qui versent des pots de vin, non?
Peut-être,
on ne sait pas.
Ça, on peut dire que malheureusement, quelquefois, les contextes locaux sont très marqués par la corruption. Mais cette question des cohérences des politiques publiques, ça, c'est aussi quelque chose que l'on pointe du doigt au CCFD via le plaidoyer. C'est-à-dire que l'action que l'on mène au niveau du terrain, elle alimente aussi toute la réflexion stratégique et politique pour améliorer les politiques agricoles.
Eh bien, nous allons faire une pause avant de poursuivre. Avec Monsieur Samuel Pommeret, chargé de mission dans la région des Grands Lacs et de l'Éthiopie. Alors, nous évoquions comment cette agroécologie devient un modèle de développement et un modèle de développement efficace qui permet aux gens de manger, de mieux manger, mais même aussi de faire plus. C'est-à-dire qu'il y a une production suffisante pour vendre, donc avoir aussi à transformer, à transporter. Racontez-nous ça, parce que ça me paraît complètement intéressant.
C'est-à-dire que cette approche est pertinente que si on s'inscrit dans une démarche dans une compréhension d'un système alimentaire global. C'est-à-dire qu'il suffit pas de produire sur la parcelle, mais après il faut que ça atteigne des consommateurs. Et ça, c'est une vraie problématique dans les contextes africains, particulièrement dans la région des Grands Lacs. C'est-à-dire que les gens peuvent se retrouver avec des produits sur les bras et l'incapacité de les vendre parce qu'il y a un manque d'infrastructures, parce qu'ils n'ont pas forcément les réseaux, ou parce qu'on leur achète
un manque d'argent aussi.
Un manque d'argent, et puis parce qu'ils sont aussi à la merci, par exemple, de commerçants qui peuvent imposer des prix qui ne sont pas du tout rémunérateurs. Donc la réflexion aussi, c'est comment est-ce qu'on développe aussi tout l'aval, c'est-à-dire trouver les moyens de stocker dans des bonnes conditions, trouver les opportunités de vente, quand est-ce qu'on vend, où on vend, à qui on vend et à quel prix. Ça, c'est pertinent. Donc ça pose aussi toute la question du financement, des outils financiers qu'il faut développer pour supporter cette activité.
Là, c'est le CCFD, l'Agence française de développement, puis d'autres partenariats.
Bien sûr, nous, on travaille, on appuie au sein des organisations paysannes, on appuie ce qu'on appelle des mutuelles de solidarité qui sont en fait des systèmes d'épargne communautaire qui, en fait, des petites épargnes mises bout à bout, finissent par faire quand même des sommes considérables qui peuvent être réinvesties dans la production agricole. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant, ou dans l'achat d'outils de transformation, des moulins, etc. Donc ça, ça fait partie de notre travail. On a aussi une organisation sœur qui s'appelle la CIDI, avec qui nous travaillons, je dirais, de manière étroite, et eux qui sont spécialisés sur ces enjeux de la finance communautaire, notamment. Donc oui, ça fait partie des réflexions. Mais aller plus loin sur le système alimentaire, c'est aussi aller chercher des consommateurs et des marchés. Je vais prendre l'exemple d'un partenaire au Burundi, la CAPAT, qui est donc une fédération de coopératives, qui a des outils de transformation, qui transforme des produits, je dirais, agroécologiques, qui sont vraiment produits dans les règles de l'art. Mais l'enjeu derrière, c'est pouvoir aller les vendre aux citadins des villes burundaises, et notamment de Bujumbura. Et ces citadins, finalement, ils n'ont pas forcément le choix du produit local, parce que le marché local est complètement saturé par des produits d'importation, des pâtes qui viennent de l'étranger, du riz qui vient de l'étranger, etc., etc., et pas forcément de bonne qualité, d'ailleurs, et cher. Bah donc ce partenaire, il réfléchit aux moyens aussi de s'installer sur le marché local et le marché régional en proposant un produit local, rémunérateur pour les paysans qui l'ont produit, et de qualité.
Et intéressant pour les gens qui l'achètent.
Et intéressant pour les gens qui l'achètent, d'abord parce que, encore une fois, il a un prix intéressant, puisqu'il a une qualité nutritive et une qualité gustative, et ça c'est extrêmement important.
Il y a de la transformation aussi de ces produits,
bien
par
sûr.
Exemple des farines pour bébés ou des choses comme ça.
Oui, ça va être des farines de différentes qualités et même tout ce qui est produits dérivés, tout ce qui est les déchets de la transformation peuvent être utilisés pour fabriquer des briquettes pour le chauffage, pour l'alimentation animale. L'idée, c'est dans cette idée d'agriculture économe, c'est aussi ça, c'est une agriculture qui valorise le plus possible tous les produits et sous-produits de la production. Donc oui, il y a de la transformation tout à fait.
De la transformation, eh bien, donnez-nous un autre exemple, puisque je crois qu'il reste encore 2 ou 3 minutes, de cette agroécologie au service des paysans dans ces régions.
Moi, un exemple que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'action d'un partenaire qui s'appelle Accor au Burundi, qui travaille sur une province à la frontière tanzanienne, et eux qui articulent gestion foncière concertée et agroécologie. Et ça, je trouve que c'est particulièrement pertinent. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a une loi foncière au Burundi qui n'est pas appliquée, et malheureusement, les premières victimes sont les femmes qui n'ont pas accès à la terre. Soit parce qu'elles n'ont pas de certificat de mariage, donc elles ne sont pas les héritières légales, elles sont aussi un peu discriminées par la coutume, qui les exclut de l'héritage. Pourtant, ça représente 70% des paysans sont des femmes. Donc, le partenaire Accor a fait une réflexion. Enfin, c'est fait une réflexion intéressante. Il dit, c'est qu'on ne changera pas la problématique agricole si on ne permet pas aux femmes d'accéder à la terre. Et donc, il travaille au niveau local avec l'administration, avec les communautés, avec les exploitants agricoles à une gestion concertée du foncier. C'est-à-dire que les habitants s'organisent pour délimiter les parcelles, réduire les conflits de voisinage et favoriser la délivrance de certificats fonciers, notamment aux femmes. Et sur ces parcelles sécurisées, on se retrouve en capacité, voilà, d'implanter des techniques, de diffuser des techniques agroécologiques. Et ça, je trouve que c'est une expérience intéressante dans le cadre burundais et qui fait tache d'huile, puisqu'il y a on est de plus en plus sollicité par l'administration, par d'autres acteurs de la société civile pour voir concrètement comment ça se passe. Et on montre qu'on peut travailler à la gestion foncière et finalement à la cohésion sociale et au développement agricole avec peu de moyens et en impliquant les gens.
Eh bien, je pense, chers auditeurs, que vous êtes convaincus de l'action positive du CCFD dans ces régions. Merci Samuel Pomeré d'être venu nous parler de ses projets. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir. Et ne ratez pas d'aller voir un peu plus d'informations dans la revue Faim et Développement Magazine.